Il est très difficile de croire en Dieu quand on ne sait pas ce qu'est la mort. Ou, pour être plus exact, il est très difficile de croire en Dieu quand on ne sait pas d'une part ce qu'est la mort, et d'autre part, quand on ne sait pas qu'on a une âme qui est immortelle. Tant de personnes aujourd'hui disent qu'elles ont perdu la foi, qu'elles ont cessé de croire en Dieu au moment de la mort d'un proche, où elles se sont senties abandonnées, trompées, voire trahies. Elles avaient tellement prié, tellement supplié le Seigneur, et Dieu n'a rien fait. La personne aimée est morte. Je ne sais pas ce qu'on leur avait dit de Dieu. Et je me demande souvent ce qu'elles savaient et de la mort et de l'âme humaine. Les trois hommes des textes de ce dimanche, le prophète Isaïe dans la première lecture, saint Paul dans la deuxième lecture, dans ce texte fondamental pour notre foi qui est le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, et dans l'évangile Simon-Pierre, le futur premier des apôtres, ces trois hommes savaient les deux, et qu'ils avaient une âme, et ce qu'est la mort. Ils savaient que la personne humaine n'est pas un animal. À l'époque, peut-être davantage qu'aujourd'hui, on se traitait de noms d'animaux, couramment. Pas seulement des noms d'oiseaux, des chiens, vipères, cochons. Et on va faire toute la liste. Pourquoi ? Pour se rappeler à ce qui fait notre humanité, pour se garder de toute confusion. Non, tu ne peux pas te comporter comme ça. C'est un animal, oui. Un être humain, non. Quant à la mort, il la voyait. Il la voyait à l'œuvre, il l'avait vue depuis qu'ils étaient tout petits. Présente, visible, permanente. On ne la cachait pas, on ne pouvait pas la cacher. Parfois, j'interroge de jeunes adultes que je rencontre. Je leur demande, mais tu as déjà vu un mort ? Pas en image, pas sur Internet ou à la télé. Non, en vrai. De près, tu as déjà touché une personne morte. La majorité de nos contemporains croient, sinon en Dieu, du moins ils disent facilement en une force supérieure. Ce qu'ils me disent. Moi je dis, ben moi aussi. Sauf que pour eux, ce qu'ils appellent cette force supérieure, c'est plutôt une force antérieure. Pas seulement du passé, mais qui est plutôt d'impulsion. Ils sont prêts à croire en un Dieu créateur, mais dont le rôle s'arrêterait là. Qui serait en réalité sans lien avec eux, ni avec leur vie, ni avec leur âme, pour autant que ce mot ait du sens. Et ils ne voient pas en quoi cette force est une source d'espérance, puisque de toute façon nous mourrons tous. Et on ajoute toujours dans ces cas-là, le plus tard possible, dans le meilleur état possible. Pierre et ses compagnons avaient vu des personnes se noyer dans le lac. Ils avaient vu des corps sans vie sur le rivage. Ils avaient eux-mêmes subi des tempêtes, l'Évangile le relate. Et ils savaient que dans leur barque, ils étaient extrêmement vulnérables. D'abord, ils ne disaient pas le lac, ils disaient la mer. Ce qui fait que quand ils étaient à la synagogue et qu'ils entendaient le récit de la mort des Égyptiens dans la mer Rouge, ou bien le récit du déluge. Évidemment, ça résonnait en eux. Évidemment, ils comprenaient très bien ce qu'était cette réalité des eaux de la mort. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus dit à Pierre que désormais ce ne sont pas des poissons que tu vas remonter de l'eau, Mais des hommes que tu prendras, lui-même et ses compagnons, immédiatement, ils comprennent d'instinct que celui qui peut dire cela est le sauveur qu'ils attendaient. C'est lui le Messie, le Christ, celui qui vient nous retirer des eaux de la mort. Et c'est pourquoi, laissant tout, ils le suivirent. L'Ancien Testament est extrêmement discret sur la mort et sur l'au-delà. Ce qui fait que les traditions juives ne s'accordaient pas entre elles. Les pharisiens croyaient à la résurrection. Les sadducéens la contestaient, mais surtout s'intéressaient surtout au salut du peuple élu, à la rédemption communautaire. On peut néanmoins reconstituer de façon relativement précise ce que croyaient les hommes de ce temps, ce que croyaient aussi bien Isaïe, Paul que Simon-Pierre. Ils croyaient au jugement de leurs actes. Ils croyaient au jugement. Et par conséquent, ils cherchaient à mener une vie droite, la plus conforme possible au commandement de Dieu et à leur conscience, sachant que la mort, l'heure du jugement, l'heure de rendre des comptes, pouvait survenir à tout moment. Ces hommes qui étaient extrêmement sensibles à la justice, ce thème qui prédomine dans tout l'Ancien Testament, la justice, ne considéraient pas la mort comme une injustice, ni comme un scandale. Elle faisait partie de l'existence de la vie. Et autre point essentiel à avoir à l'esprit, c'est que ces hommes avaient également une relation plus saine que nous aux institutions. Que ces institutions soient des institutions religieuses, administratives, quelles qu'elles soient, sociales, sanitaires, éducatives, même si elles étaient difficilement comparables à ce que nous vivons aujourd'hui. L'école et l'hôpital sont, dans leur accès à tous, des inventions chrétiennes. Mais de ces institutions, ces hommes savaient la nécessité pour la vie sociale. On ne peut pas vivre en société autrement. Ils en savaient à la fois la nécessité et les limites. Les limites parce que ces institutions sont tenues par des hommes. Ils ne comptaient donc pas sur ces institutions pour les sauver. Ni d'une pêche désastreuse, ni d'une récolte catastrophique, ni d'une perte subite de ressources, ni d'une maladie grave, ni d'un comportement irresponsable ou aberrant. Ils ne faisaient pas n'importe quoi en se disant « De toute façon, il y aura les pompiers, l'hôpital, enfin, il y aura toujours quelqu'un pour venir nous chercher. » Au contraire, ils savaient que ces institutions seraient sans pitié en cas d'infraction de leur part aux lois ou aux usages. Ces hommes d'expérience, qui avaient du bon sens, ne mettaient pas leur confiance dans des institutions que par ailleurs ils respectaient, pas plus qu'ils ne mettaient leur confiance dans leurs moyens d'existence, que ce soit leur bien matériel ou leur outil de travail, encore moins dans des facilités techniques ou des moyens de communication. S'ils vivaient parmi nous aujourd'hui, ils seraient effarés. Effarés de voir à quel point nous dépendons, par exemple, de l'informatique ou d'Internet. Ils nous diraient « Vous êtes fous !» Parce qu'on savait qu'on avait une âme. Et parce qu'on savait ce qu'est la mort. La sagesse, c'était de rester proche de sa famille, de la supporter, quelle qu'elle soit, de s'entourer d'amis fidèles, de privilégier une stabilité de relations. Parce que des relations stables, fidèles, c'était autant de protection, autant de soutien dans les difficultés ou dans les épreuves, autant de possibilités de réconfort, de consolation. Et voilà quand Jésus, Pierre, Paul, les disciples, découvrent une force, une puissance de vie d'une autre nature, aussi bien dans sa parole, dans les enseignements qu'ils avaient entendus, que dans ses actes, les miracles qu'il faisait. Une puissance de vie si prodigieuse qu'elle ne pouvait venir que de Dieu. Et si attentionnée, si respectueuse, qu'ils ne pouvaient que lui ouvrir leur cœur. Ne crains pas, sois sans crainte. Mais c'est un appel qui est enthousiasmant. La Vierge Marie dit, exaltant, oui, enthousiasmant. Et c'est pourquoi, laissant tout, ils le suivirent. Il en va de même pour chacun de nous. Même si nous ne nous laissons pas tout, tout de suite, même si nous ne sommes pas appelés à tout laisser tout de suite, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra tout laisser. Mais même si nous ne laissons pas tout, nous savons que le bonheur se trouve auprès de Jésus, avec lui. La mort n'est plus la même quand on a rencontré le Christ. Notre âme n'est plus la même. Notre âme est enfin vivante. Notre âme peut se remplir de joie. Il y a un psaume qui le dit de façon magnifique. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. La mort n'est plus la même quand notre âme a connu Jésus-Christ.